savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde. Aujourd'hui à l'affiche, un film formidable qui entremêle les fils du politique et du romanesque. L'atelier ou le face-à-face lors d'un atelier d'écriture entre une romancière de gauche, Marina Foïs, et un jeune tenté par les idéaux d'extrême droite, Mathieu Lucci. Mathieu Lucci que nous recevrons dans une vingtaine de minutes avec le réalisateur Laurent Canté. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Nous parlerons aussi aujourd'hui de la nouvelle comédie du duo Nakache-Toledano, Le sens de la fête, et aussi du film le plus attendu de la saison, Blade Runner de Denis Villeneuve. Sophie, dans quelques minutes, vous nous direz tout ce qu'il faut penser de ces répliquants millésimés 2017. Et nous partirons aussi en Chine avec notre correspondante à Shanghai, Angélique Forget.
Tous les cinémas du monde sur RFI avec Unifrance Film, l'actualité du cinéma français à l'international. www.unifrance.org.
Allez, tout de suite, on part pour notre tour du monde de la planète cinéma. Cap sur l'Espagne, où le festival de San Sebastián a remis sa Concha de Oro, son coquillage d'or, à un film américain.
Je suis impressionnée par votre accent espagnol.
Non,
oui, le film qui reçoit donc le coquillage d'or, c'est The Disaster Artist, une comédie hilarante signée James Franco.
I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
Okay.
Action.
Voilà, dans The Disaster Artist, l'acteur, réalisateur, photographe James Franco revient sur le tournage du film The Room, un film de Tommy Wiseau, sorti en 2003 et considéré comme l'un des pires de l'histoire du cinéma. Un film si nul donc qu'il en est devenu culte. Sinon, le coquillage d'argent de San Sebastián revient pour la première fois à une femme, la cinéaste argentine Anahí Berneri, pour son film Alanis, l'histoire d'une prostituée qui tente de prendre soin de son fils, un film pour lequel l'actrice principale Sofia Gala Castiglione reçoit le prix de la meilleure actrice.
Alors voilà pour le palmarès, Sophie, mais c'est aussi à San Sebastián cette année qu'une polémique canoise, ou une pré-polémique, je ne sais pas, en tout cas elle est née.
Oui, car à San Sebastián, le directeur artistique du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, s'est déclaré favorable à un changement d'organisation des projections de presse, en tout cas celles de certains films, on va dire des films à fort enjeu économique. Thierry Frémaux suggère de supprimer tout simplement les projections de presse du matin, celles qui précèdent de quelques heures la projection officielle d'œuvres très attendues. Il prend comme exemple les séances houleuses des derniers films de Sean Penn ou de Gus Van Sant, et il aimerait donc des projections simultanées, ou alors peut-être des journalistes dans la salle de projection officielle qui seraient donc moins tentés de siffler. Tollé sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si le conseil d'administration du festival va avaliser ce changement, mais on est presque déjà à Cannes avant Cannes avec cette polémique naissante.
Oh mais non, on n'est pas à Cannes, on va partir à Biarritz après San Sebastián. C'est le festival des cinémas d'Amérique latine dont je vous parlais la semaine dernière, et il a décerné son Abrazo, son grand prix.
Et c'est le film La Familia du Vénézuélien Gustavo Rondon Cordova qui est sacré. La Familia raconte la mes aventures tragiques d'un gamin de 12 ans, Pedro.
¿Y a ti qué te pasó?
Que nos vamos aquí.
No mete nada.
Mete tus mierdas en el bolso, Pedro. Apúrate. Camina.
Voilà, Pedro vit dans une banlieue violente de Caracas. Un jour, il blesse gravement un jeune garçon qui tentait de le voler. Son père décide alors de fuir pour sauver Pedro, menacé par les gangs. La Familia, donc meilleur film du Festival des cinémas d'Amérique latine de Biarritz.
En Afrique du Sud, la famille de l'athlète Oscar Pistorius, actuellement en prison pour le meurtre de sa petite amie, annonce vouloir porter plainte contre les auteurs d'un film sur cette affaire.
I don't quit until I get what I want.
You can be my personal angel while I train for the next Olympics.
I'm in this all the way with you, Papa.
Get out of my house! Stay where you are! Don't stay!
Voilà, alors ce film de Norman Stone s'intitule Blade Runner Killer. Blade Runner, car c'est le surnom donné à l'athlète Oscar Pistorius, le coureur aux jambes en prothèse en lame de carbone. Blade Runner Killer doit être diffusé le 11 novembre prochain sur la chaîne de télévision américaine Lifetime. Il retrace la relation amoureuse entre Oscar Pistorius et le mannequin Riva Steenkamp, ainsi que la nuit fatale de 2013 pendant laquelle le sportif l'a abattu chez lui. Et enfin, le procès qui a tenu en haleine l'Afrique du Sud. Les deux familles, et celle de l'athlète emprisonné et celle de la victime, sont indignées. La famille d'Oscar Pistorius surtout, car l'athlète paralympique a toujours plaidé la méprise et non l'assassinat.
Enfin, on termine notre tour du monde par la Chine. La Chine qui, ces dernières années, a investi massivement à l'étranger, dans tous les domaines, on le sait, le sport, l'industrie du luxe, le cinéma. Voilà que le gouvernement chinois veut désormais restreindre ses acquisitions à l'étranger. Il l'avait annoncé en début d'année, vient de le réaffirmer il y a quelques jours. Il veut limiter, il veut limiter les investissements irrationnels. Donc un changement de stratégie énorme qui pourrait avoir des conséquences massives sur le monde du cinéma. On retrouve notre correspondante à Shanghai, Angélique Forger. Bonjour.
Bonjour.
Alors Angélique, comment s'explique ce changement de stratégie ?
Eh bien, l'objectif de Pékin, il est clair, c'est de réduire drastiquement la fuite de capitaux hors du pays. Ces dernières années, la Chine a investi à l'étranger dans tous les domaines, dans le sport, dans le viticole, dans l'immobilier. Les chiffres donnent le tournis. Hein. Rien qu'en 2016, ces investissements à l'étranger ont représenté 136 milliards d'euros. Mais voilà, Pékin veut que cela cesse. Il veut recentrer les investissements dans les entreprises chinoises et dans ses propres infrastructures. Le pouvoir ne veut plus que les groupes chinois investissent à l'étranger à tout va.
Et cela concerne bien sûr en priorité les investissements sur le secteur, dans le secteur du cinéma.
Oui, pour les investisseurs chinois à l'étranger, c'était un gros poste de dépense. Premier exemple, en 2016, Alibaba, le géant du commerce en ligne, entrait au capital d'Amblin Partners, la société de Steven Spielberg qui regroupe différents studios de cinéma. Autre exemple, peut-être encore plus parlant, Wang Jialin, l'homme le plus riche de Chine, avait racheté en 2015 pour 3,5 milliards de dollars les studios Legendary qui avaient produit Jurassic World ou encore la trilogie Batman. Wang Jialin est propriétaire aussi de la chaîne de cinéma américaine AMC. Et puis la France non plus n'a pas échappé à l'appétit chinois. EuropaCorp, la société de Luc Besson, avait fait entrer à son capital Fundamental Films, une société de production et de distribution chinoise pour 60 millions d'euros. L'objectif pour ces trois groupes, donc Alibaba, Wanda et Fundamental, c'est bien évidemment de faire du business, de s'imposer comme acteur clé de l'industrie cinématographique, mais c'était aussi de répandre la culture chinoise grâce au pouvoir du cinéma.
Et alors Angélique, qu'est-ce que ça va changer, ce coup d'arrêt porté aux investissements chinois à l'étranger ?
Eh bien, très concrètement, déjà dans le cas d'EuropaCorp, les conséquences pourraient se faire sentir très bientôt. La société cherche de nouveaux investisseurs pour éponger sa dette et elle voulait pour cela faire monter encore un peu plus à son capital le chinois Fundamental. Mais voilà qu'avec cette nouvelle réglementation voulue par Pékin, ce ne sera plus possible. Il va donc falloir trouver un autre investisseur. Et puis Wanda, de son côté, a dû annuler en début d'année une gigantesque opération, le rachat de la célèbre cérémonie des Golden Globes. La chaîne de salles de cinéma américaine AMC, dont Wanda est propriétaire, connaît quant à elle des difficultés depuis que l'on sait que Pékin veut freiner les investissements à l'étranger. En juillet, le cours de son action a chuté de 10% en une journée. Donc vous le voyez, cette nouvelle réglementation chinoise pourrait changer le paysage des studios et des salles de cinéma dans le monde. Mais le patron de Wanda veut se montrer rassurant. Il a organisé à Los Angeles cette semaine une conférence avec ses partenaires au cours de laquelle il a fait savoir qu'il était toujours dans la partie et qu'il resterait bien présent à Hollywood.
C'est quand même pas très rassurant. Merci Angélique Forger, vous êtes notre correspondante à Shanghai. Les films de la semaine, 15 titres à l'affiche, mais deux qui écrasent tout sur leur passage. Et ça tombe bien, Sophie, puisque ce sont deux films qu'on a beaucoup aimés, vous et moi. Le Sens de la fête, la nouvelle comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Et puis Blade Runner de Denis Villeneuve, la suite très très attendue du chef-d'œuvre de 82 de Ridley Scott. Sophie, verdict?
Eh bien, c'est une surprise, une excellente surprise, d'autant plus savoureuse qu'on craignait le pire, car Sony, le distributeur, n'a montré le film qu'au tout dernier moment, ce qui en général n'augure rien de bon. Cela dit, en sortant, la critique était divisée, mais nous n'avons pas boudé notre plaisir.
Every civilization was built off the back of a disposable workforce. But I can only make so many. Happy birthday.
Voilà, alors 35 ans plus tard, les bases restent les mêmes. Hein. On est dans un futur proche où la catastrophe écologique a eu lieu et où l'homme utilise des robots humanoïdes esclaves pour aller exploiter d'autres planètes. Dans ce monde-là, il y a des policiers spéciaux, des Blade Runner, qui sont chargés de traquer les androïdes rebelles et de les éliminer. Comme dans le chef-d'œuvre de Ridley Scott, on retrouve la même bande-son atmosphérique signée Vangelis. Il y a le même scénariste, Hampton Fancher, le même univers, mais pour le coup, le postulat de départ a changé. Dans le film d'origine, adapté d'un roman de Philip K. Dick au titre savoureux, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? L'inspecteur chargé de traquer et d'éliminer les androïdes rebelles, le Blade Runner incarné par Harrison Ford, tombait amoureux d'une réplicante, Rachel. Dans Blade Runner 2049, le Blade Runner est un robot docile, programmé pour obéir aux humains, appelé par son numéro de série, mais aussi comme un héros des romans de Kafka. K a les traits de l'imperturbable Ryan Gosling, mais lors d'une enquête, il va découvrir un secret qui pourrait bien être celui de ses origines.
There is an order to things. That's what we do here. We keep order. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall.
Le Québécois Denis Villeneuve réussit l'impossible, respecter l'esprit du chef-d'œuvre de Ridley Scott, ce film noir futuriste qui rendait autant hommage au faucon maltais qu'il ouvrait d'autres pistes de science-fiction, tout en imprimant sa marque. Il réalise des séquences à l'esthétique bluffante, désert californien envahi de serres de synthèse, des charges de ferraille inquiétantes, un Las Vegas totalement fantomatique, irradié, à baigner d'une lumière ambrée, et puis une scène d'amour totalement inoubliable qui met personnages tangibles et hologrammes. Alors on peut suivre avec plaisir l'intrigue policière, mais aussi méditer sur les interrogations existentielles qu'elle véhicule avec maestria.
Un film moins attendu que Blade Runner, Sophie, mais étonnant et curieux, vous l'avez adoré, c'est Téhéran Tabou d'Ali Souzandeh, un film qui s'attaque de front aux interdits sexuels en Iran.
می‌خواستم بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه
منفی.
Alors donc Téhéran Tabou, c'est vraiment un film étonnant, audacieux. Dès la première scène, le ton est donné. On y voit un chauffeur de taxi demander une faveur sexuelle à une prostituée et qui, tout en conduisant, aperçoit sa fille dans la rue et s'insurge qu'elle donne la main à un garçon. En une séquence, tout est dit de l'hypocrisie des mœurs et des inégalités hommes-femmes en Iran. Le réalisateur suit une galerie de personnages qui habitent tous dans le même groupe d'immeubles. Une femme qui se prostitue par nécessité, qui emmène son enfant muet au travail. Son protecteur et fidèle client est un ayatollah. Dans une autre famille, il y a un patriarche qui regarde des clips érotiques à la télévision et zappe sur une chaîne religieuse dès que son épouse rentre. Voilà, puis un jeune musicien qui boit, qui se dope, qui ne rêve que de partir. Et il est bien embêté car une de ses maîtresses un jour l'appelle en lui demandant de l'aider à payer l'opération chirurgicale pour lui recoudre l'hymen car elle doit se marier une semaine plus tard et elle n'est plus vierge. Alors le réalisateur quadragénaire Ali Souzandeh ne dénonce pas ses personnages, il ne dénonce pas ses compatriotes, mais bien plutôt les faux-semblants de la morale dans son pays d'origine.
Dégâchis.
hier geht es um die Einschränkungen, besonders sexuelle Einschränkungen in der iranischen Gesellschaft.
Le film montre que les interdits sexuels en Iran poussent les personnages à une double morale. Les femmes comme les hommes, les anciens comme les jeunes. Le grand-père dans le film regarde en cachette les télévisions étrangères pour les programmes coquins. Tout le monde en souffre, même si les femmes sont les plus touchées. Ce sont elles qui portent l'honneur de la famille. Un homme peut tromper sa femme, mais si c'est l'épouse, elle met en danger tout l'honneur de la famille. Et puis la femme est chargée de transmettre les règles et les interdits dont elle souffre.
Und ich glaube deswegen haben wir auch mehr Frauen als Hauptrolle als Männer.
Alors on comprend bien qu'Ali Souzandeh s'attaque de front aux interdits en Iran, avortement, consommation d'alcool, prostitution. S'il a pu filmer si librement, Sophie, c'est parce qu'il vit en exil, d'une part, et puis il a tourné avec une technique apparemment très particulière.
Oui, Ali Souzandeh habite depuis 22 ans à Cologne, en Allemagne, c'est pour ça qu'il parlait allemand dans l'interview. Il n'aurait jamais pu tourner ce film en Iran, mais il a gardé de la famille et des amis à Téhéran. Il a utilisé des photos actuelles, des vidéos sur YouTube pour créer les décors, car Téhéran Tabou est un film d'animation. Mais le réalisateur a filmé ses comédiens avec une équipe technique sur fond vert, puis il les a redessinés en les insérant dans un décor iranien.
La technique que nous avons utilisée s'appelle la rotoscopie. Avant de nous décider, nous en avons testé d'autres. Le dessin à la main, la 3D sur l'ordinateur ou même l'animation avec des marionnettes. Mais cela ne fonctionnait pas. Le film parle de la vie réelle, dure, de la rue. Ce n'est pas un dessin animé destiné aux enfants. Les comédiens ont apporté une réalité au film qui le rend plus acceptable pour un public d'adultes.
Téhéran Tabou, un premier film d'animation signé Ali Souzandeh, actuellement sur les écrans français. Et puis la comédie française de la semaine, peut-être même de l'année, Le sens de la fête, Éric Toledano, Olivier Nakache. 6 ans après le succès colossal d'Intouchables, le duo dirige de façon virtuose un casting mené par Jean-Pierre Bacri, patron d'une PME qui organise des mariages très chics et parfois très chocs.
Je vous le redis là, une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Bon, donc on ne tire pas tous ensemble sur les lignes, on se coordonne, on échange, hein, on partage. Bon, et puis pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions.
La voix de Jean-Pierre Bacri, alias Max, un entrepreneur en mariage. Le film commence très tôt, le matin, ça va être une journée dans la vie de Max, la journée de tous les dangers, avec ce mariage très chic qu'il a facturé très cher dans un château, on l'entendait dans la bande-annonce, château du XVIIe siècle avec serveur en livrée, menu concocté par un chef et puis orchestre réservé. Bref, tout doit être absolument parfait, Sophie, mais rien ne va. Panne d'électricité, gigot frelaté, extra incompétent, bref, la catastrophe menace.
Ah pardon, Samy, t'es sûr de toi là pour les feux d'artifice ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? J'ai dit on se coordonne ! Y'a personne qui comprend que je joue ma vie, moi ! À chaque soirée, je joue ma vie.
Ça rappelle le scénario de Un mariage, hein, le chef-d'œuvre de Robert Altman, un sommet du film choral. Est-ce que c'est aussi réussi ?
Et l'équilibre est presque parfait entre le dialogue, le rythme, la partition de chaque personnage. C'est vrai que, comme le film d'Altman, en beaucoup moins cruel, hein, bien sûr, parce que Nakache et Toledano seront bien plus sentimentaux que Altman, c'est un vrai film choral qui tourbillonne de personnage en personnage. Impossible de les citer tous, Sophie, mais ils sont tous formidables. Il y a un serveur catastrophique.
Et qui reprend un ancien professeur de français. Il est irrésistible.
Voilà Vincent Macaigne, ancien professeur de français dépressif, devenu serveur catastrophique. Vincent Macaigne, un photographe boulimique, c'est Jean-Paul Rouve. Un musicien mégalo, c'est Gilles Lelouch. C'est presque constamment drôle. Ça va à une vitesse folle. Et on pourrait dire à la fin, le mariage était presque parfait, mais lui, le film, lui, est totalement réussi.
Tous les cinémas du monde, petit entracte, le temps du flash d'info. Restez avec nous, dans 3 minutes, nous recevons Laurent Cantet et son acteur Mathieu Lucci pour parler de L'Atelier.
Tous les cinémas du monde.
Et après, qu'est-ce qui se passe alors ?
Les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotin.
bienvenue dans tous les cinémas du monde. Deuxième partie de l'émission consacrée à L'Atelier de Laurent Cantet, un film que nous avions adoré, Sophie, au Festival de Cannes, un face-à-face puissant, intrigant, émouvant, un grand film sur la parole dans tous ses états, la parole poussée à bout, un face-à-face surtout qui donne beaucoup à réfléchir, ce qui est peut-être le plus beau compliment qu'on peut faire à un film. D'un côté, une romancière, Marina Foïs, descendue de Paris pour animer un atelier d'écriture. De l'autre, des jeunes de la Ciotat, dans le sud de la France. Parmi eux, Antoine, un jeune fasciné par les armes à feu et la culture identitaire. Antoine, c'est vous, Mathieu Lucci, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour, Laurent Cantet.
Bonjour.
Mathieu, c'était, je crois, votre premier Festival de Cannes. Ça a dû être une expérience époustouflante.
C'était mon premier tout, c'était ma première expérience de jeu, mon premier film, mon premier Festival de Cannes. Donc,
comment ça se passe dans ces cas-là?
C'est
vertigineux.
C'est vertigineux et c'est surtout que du bonheur parce que on est tellement propulsé dans un monde dans lequel on ne connaît rien qu'on peut voir et prendre que les côtés positifs. Donc c'était vraiment génial.
Et vous, Laurent Cantet, le film a eu un succès.
Oui, c'était pas tout à fait mon premier film, j'ai plus tout à fait le même âge, désolé.
Premier Festival de Cannes, on rappelle que vous avez entre autres reçu la Palme d'Or pour Entre les Murs, c'était il y a presque 10 ans.
Presque.
Mais le succès extraordinaire, l'enthousiasme du public et des critiques à Cannes, est-ce que vous y attendiez à ce point? On avait presque l'impression que le film répondait à une attente ou peut-être à une question.
Quand on fait un film, on a toujours envie de susciter cette attente-là. C'est vrai que par contre, comme toujours à Cannes, on n'a jamais montré le film à personne avant, sinon à quelques copains dont on a toujours le sentiment qu'ils sont peut-être plus indulgents qu'un public moins choisi. Et c'est vrai qu'il y a comme ça une tension mais assez agréable à vivre hein, au moment du début de cette projection et sentir que la salle écoute et est très attentive, c'est quelque chose de toujours très très émouvant quoi.
Allez, faut se jeter à l'eau. Mais pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave.
Ben, pourrait y avoir un meurtre.
Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début.
C'est obligé qu'il se passe ici le roman.
L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement immédiat.
Un roman, c'est une fiction. On ne va pas écrire en se renfermant sur nous-mêmes ou en se regardant dans une glace, c'est con. Pourquoi est-ce qu'une écrivaine comme vous elle viendrait perdre son temps ici avec nous?
Mais j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Je suis là parce que ça m'intéresse, c'est tout.
Alors c'est à nous, nous nationaux, d'incarner le génie français. On lutte pour une culture qui, aujourd'hui, est mise en danger par ce métissage galopant.
Ça, on sait très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique.
Oh, ta gueule.
Voilà, la bande-annonce de L'Atelier de Laurent Cantet. On vient d'entendre les voix de Marina Foïs et de vous, Mathieu Lucci, mais aussi de tous les jeunes qui vous entourent. Warda Ramache, Issam Talbi, Florian Beaujean, Julien Sou, Mélissa Gilbert et Mamadou Doumbia, tous incroyable. Alors, comment s'est fait la rencontre Laurent Cantet, Mathieu Lucci? Vous avez rencontré Mathieu, vous avez rencontré un collectif, vous avez rencontré un atelier?
Non, on a fait un casting d'abord à La Ciotat, puisque le film se déroule à La Ciotat, en allant dans tous les endroits où on avait des chances de rencontrer des jeunes gens de cet âge-là, c'est-à-dire les lycées, les
routières, missions locales.
Voilà, et on a distribué beaucoup de petits flyers proposant un casting. J'ai dû voir plusieurs centaines, j'ai jamais fait le compte en fait, mais plusieurs centaines de jeunes gens. Et à chaque fois que je trouvais quelqu'un qui me semblait soit correspondre à un personnage, soit en tous les cas me donner envie de le connaître un peu mieux, j'essayais de réunir ceux que j'avais déjà trouvés pour voir si le groupe aussi allait fonctionner, parce que quand même la notion de groupe est très très importante dans le film, et qu'il fallait que cette alchimie se produise.
Parce qu'il faut le dire, donc ce groupe qui participe à un atelier, en fait, ces jeunes ne se connaissent pas avant de participer à cet atelier, qui est un atelier proposé par la mission locale d'insertion, avec une romancière, et ils sont chargés, tous ces jeunes qui ne se connaissent pas, d'écrire un roman policier.
Alors ça, c'est c'est pas une idée que j'ai eue seule. C'est effectivement il y a une vingtaine d'années, alors que La Ciotat venait de connaître un vrai traumatisme avec la fermeture de son chantier naval, la mairie et la mission locale avaient proposé à une dizaine de jeunes de participer à un atelier d'écriture pour essayer de leur permettre de se réapproprier ce passé du chantier qui commençait déjà à devenir de l'histoire ancienne pour eux. J'avais commencé à l'époque à écrire un scénario à partir de ça, en pensant que le dispositif de l'atelier, c'est ce lieu de confrontation, ce lieu où on est obligé de réfléchir, de produire des mots, était un bon moyen de cerner un petit peu comme ça les préoccupations d'une génération.
Et produire un peu de l'inconscient aussi.
Et produire parfois de l'inconscient souvent, effectivement aussi. Et puis là, du coup, il y a quelques années, quand j'ai voulu à nouveau essayer de cerner peut-être des profils de jeunes gens d'aujourd'hui, le dispositif m'a semblé à nouveau assez efficace. Et j'ai repris ce scénario avec Robin Campillo, qui est mon co-scénariste habituel. Et on a développé cette idée de départ qu'on avait laissé tomber il y a 17 ans, en essayant aussi de faire que ce soit pas non plus un film uniquement sociologique. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure que c'est un film qui fait réfléchir, tant mieux. J'espère que c'est un film qui va poser des questions, qui va donner envie de discuter, mais je pense aussi que c'est un film qui est à la limite du thriller, qui moi m'importe beaucoup, parce que justement ça permet aussi de faire passer toute l'ambiance de l'époque à travers quelque chose qui est totalement incarné par des personnages dont finalement on va faire une focalisation sur Antoine, donc le personnage joué par Mathieu, et Olivia joué par Marina Foïs.
Mais c'est l'incarnation justement qui permet de réfléchir.
J'espère.
Sans incarnation, c'est impossible. Mais Laurent, je voulais vous poser une question, parce que donc c'est un scénario qui date de la fin des années 90, en tout cas le projet, et vous l'avez écrit après les attentats de Charlie, et je crois que vous l'avez terminé à peu près au moment des attentats de Paris et du Bataclan.
Oui.
Donc du coup, est-ce que ça vous a obligé à transformer le scénario ?
Ah oui, c'est sûr que d'abord le scénario qu'on n'avait pas écrit il y a 17 ans, qu'on avait commencé à penser, mais aurait été très très différent de celui d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qui m'a donné le déclic, c'était quand même les attentats de Charlie, où je me disais, mais attends, comment est-ce qu'à 20 ans on peut vivre dans ce monde-là, quoi? Quels sont comment on se positionne par rapport à ça, par rapport à cette violence, par rapport à cet extrémisme de tous bords d'ailleurs, hein, parce que ça se répond quand même souvent beaucoup. Et on a fini effectivement une première version juste avant les attentats de novembre, qui m'ont donné envie d'aller un peu plus loin, ou en tous les cas d'être un peu moins pudique peut-être dans ma façon d'aborder la question. Donc on a réécrit certaines scènes à ce moment-là. Et puis quand on a commencé à travailler ensemble avec Mathieu en particulier, c'était le 15 juillet, donc le lendemain de Nice, et Mathieu était très secoué parce qu'il avait vécu pendant toute la nuit devant sa télé. Les autres participants aussi, et au cours de toutes les répétitions qui ont suivi, toutes les improvisations qu'on a pu faire ensemble, bah c'est sûr que cette question-là est revenue de manière encore plus poignante qu'elle ne l'était sur le scénario, quoi.
Et d'ailleurs, Mathieu Lucci, votre personnage d'Antoine, effectivement, on a l'impression qu'il s'auto-radicalise sur Internet et qu'il comprend, à un moment, il parle hein, d'ailleurs des tueurs du Bataclan, qu'il comprend ce qu'ils ont pu ressentir.
C'est pas vraiment, j'ai pas l'impression qu'il les comprend dans le sens où il pardonne leurs actes parce qu'il a compris leur motivation et que ce qu'ils font est justifié de par ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé. C'est juste que je pense qu'il est tellement dans une errance et dans une quête de soi que et son environnement l'attire vers cette extrême droite parce que son cousin et ses amis sont attirés aussi par ce mouvement. C'est plus quelque chose qui prend au passage, qui l'explore sans vraiment trop y croire, et ça entraîne le personnage un peu dans des situations où lui-même on dirait qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit, qu'il est dans une provocation un peu dans une quête d'existence et d'existence par rapport aux autres, puisqu'il se dit je me suis un petit peu mis et les autres me mettent un peu à cette place de reclus, de celui qui est toujours dans la contradiction alors que c'est quelqu'un qui apporte quand même beaucoup à l'atelier. Il s'auto-positionne dans cette case de personne à part, quoi.
Il s'auto-isole et en même temps, il est un peu le provocateur attitré du groupe, hein. C'est un peu le grain de sable,
ouais,
dans les rouages. On va écouter un extrait, justement, de l'atelier.
Vous savez, moi, ça, comme décor, ça me va, hein. Ce serait bien de retrouver un cadavre sur un yacht, comme ça, au milieu du chantier.
Pas mal. Comme ça, nous, on a notre chantier naval et toi, t'as ton yacht de milliardaire. Bien joué.
Non, mais comme ça, on rejoint l'idée de Booba, là, on le retrouve calaché dans sa baignoire à la Scarface. Là.
N'importe quoi, on avait dit que ça devait être lié au passé, aux grèves, aux luttes, non?
Donc toi, tu veux que l'histoire, ce soit un ouvrier qui revienne 20 ans après s'être fait virer pour tuer un milliardaire américain. Un communiste qu'elle aime, quoi.
Bah, mon grand-père était communiste, ça te dérange?
Bah non, bah, t'as trouvé ton assassin, c'est un vieil arabe communiste en chaise roulante qui a fait le coup.
Bah mon grand-père était pas handicapé, moi, je te le dis.
J'imagine bien le vieux en train de monter sur le bateau. Il est où le Yankee? Je veux le buter.
On plaisante là, je vous dis pas qu'on va tout garder, mais il y a des choses intéressantes. Par exemple, ce que propose Malika, que notre histoire soit liée au passé communiste de la ville, c'est pas mal.
En fait, vous voulez faire un roman politique, vous voulez pas faire un roman noir, vous pouvez le dire.
Ah mais non, mais moi je veux rien.
Ouais. Vous voulez rien? Vous voulez faire croire ça à qui ici?
Bah c'est pas comme ça que je le sens, mais bon. Puis tu sais Antoine, un roman policier peut tout à fait être connecté aux politiques, c'est souvent le cas d'ailleurs.
Conversation un peu tendue hein, dans l'atelier d'écriture entre Olivia, Marina Foïs et ses stagiaires, dont vous, Antoine, Mathieu Lucci. Alors elle dit à un moment donné, on peut tout à fait mêler le genre policier et la politique. Est-ce que c'est un peu votre voix qu'on entend dans ce dialogue, Laurent Canté?
Oui, sûrement. Enfin, d'ailleurs, le film a plein d'allusions un petit peu auto-réflexives sur la place de celui qui tire les ficelles parfois. C'est-à-dire que c'est effectivement un des reproches que Antoine peut faire à Olivia. Vous nous faites écrire ce que vous voulez qu'on écrive. En tant que réalisateur, c'est évidemment des questions que je me pose et en les posant, j'espère éviter les travers que le film essaye de dénoncer. Évidemment, il y a un moment où on est quand même un petit peu le chef d'orchestre et où on
donne un peu la mesure.
On donne un peu la mesure.
Mathieu Lucci, il y avait quelle ambiance sur le plateau? C'est-à-dire que c'est ce face-à-face, ces dialogues, est-ce que ça vous faisait discuter entre vous? Est-ce qu'il y avait des débats avec Laurent Canté?
Alors, il y a eu des discussions, oui, avec Laurent. On a eu 3 semaines de répétition avant le tournage. 2 semaines uniquement les jeunes et la dernière semaine, Marina nous a rejoints. Oui, ça créait beaucoup de discussions parce que c'est un peu ce que Laurent voulait, je pense, avec ses répétitions, c'est-à-dire compléter le scénario avec nos discussions, nos improvisations, parce que c'est ce que me disait Laurent. Il voulait vérifier si ce qu'il avait écrit seul dans son bureau ou chez lui était coordonné avec ce qui se passait vraiment sur le terrain, avec ce que pensaient les jeunes et tout.
Parce qu'on l'a pas dit, mais vous êtes de la Ciotat et la Ciotat, c'est une région où le Front National est très fort, où Marion Maréchal Le Pen est très...
Ça, je m'y suis intéressé après le film. Ouais.
Ah, c'est vrai?
J'avais jamais fait gaffe. Et puis après, je me suis dit, ah merde, où est-ce que j'habite?
Et vous discutiez de quoi entre vous?
Ah bah, dans les discussions.
Ou avec Laurent?
Dans les discussions avec Laurent, on discutait beaucoup des sujets qui sont lancés dans le film. Que ce soit le rapport qu'on a à Internet, à l'accès à la violence, toujours par Internet, ou... comment est-ce qu'on perçoit cette violence par rapport au djihadisme, par rapport aux extrémismes. Et après, sinon, dans les discussions entre nous, c'était quand même beaucoup plus léger. Enfin, c'était c'était un travail d'été, c'était un peu notre travail d'été, on est vite devenus copains, donc...
Laurent Cantet, pour l'atelier, vous disiez, il y a toutes les questions, puis Mathieu Lucci le disait aussi, donc il y a des questions, entre guillemets, lourdes, d'actualité, mais au-delà de ça, vous parliez de films policiers, enfin, ou en tout cas, là, ils écrivent un roman policier, il y a une dimension de thriller dans le
J'espère que ce qu'ils sont en train d'écrire contamine finalement le film lui-même, et ça me plaît que aussi tout ce qui est débattu dans l'atelier, tout ce pourquoi ils cherchent les mots justes pour les écrire, résonne aussi dans une histoire donc beaucoup plus intime entre Antoine et Olivia.
Parce qu'il y a de la tension, il y a une tension sexuelle entre eux, qui n'est pas exprimée. Mais...
Cette tension, elle ne s'exprime jamais, mais j'espère qu'on la ressent aussi, parce que c'est vrai que, par ailleurs, le contexte et le décor mènent assez facilement à cela. Ça se déroule au bord de la mer, la calanque, la mer, la chaleur. Enfin, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que du coup, ça crée des personnages... comme ça, par strates, c'est-à-dire qu'on peut se dire que la fascination qu'Olivia éprouve pour Antoine, elle est générée par l'intelligence de ce jeune homme qu'elle a en face d'elle, qu'elle a envie malgré tout de sauver comme ça, en bonne militante qu'elle peut être, essayer de le sortir de là où il est, lui donner un sens à sa vie qui va lui éviter justement d'aller vers des extrêmes. Mais on peut se dire aussi qu'elle a un rapport très maternel avec lui parfois.
Mais il reste opaque. Est-ce que c'est aussi le jeu, les indications de jeu que vous aviez données
Alors, il reste opaque parce que lui-même ne sait pas trop où il va, ne sait pas trop qui il est. Et j'espère qu'à la fin du film, justement, tout le travail qu'il a fait sur lui-même le rend un peu plus transparent. Et j'ai l'impression que même s'il est celui qui résiste le plus à l'atelier, il est certainement celui qui va en tirer le plus de bénéfices pour lui-même. C'est-à-dire que, à la fin du film, on le voit décider de prendre une décision sur sa vie, quoi. Pour la première fois, il va être maître de quelque chose, quoi.
Laurent Canté, il y a une forme de distinction de classe, enfin, si je puis dire, dans le film, entre la parisienne et les locaux. Marina Foïs, qui a, on suppose, hein, toutes les armes intellectuelles et économiques pour réfléchir. Et puis, ces adolescents, ces jeunes adultes en face d'elle, qui sont bien plus naïfs, d'une certaine façon, donc plus malhabile. Est-ce que c'est ça qui vous intéressait, un peu comme dans Entre les murs d'ailleurs?
Oui, il y avait ce face-à-face entre ces deux mondes qui se regardent avec à la fois attirance et rejet, parce que c'est une Parisienne, elle utilise des mots qu'on comprend pas, et en même temps elle est séduisante aussi par tous ces travers-là. Donc ça, vrai, c'était vraiment quelque chose d'important dans le film. Ce qui était important aussi, c'était que l'atelier n'apporte pas seulement quelque chose aux jeunes gens, mais qu'elle-même en ressorte totalement modifiée, bouleversée. Et je pense qu'elle sera une bien meilleure écrivaine, d'ailleurs, à la fin de l'été qu'elle n'était au début. Parce qu'elle est remise en question par la dynamique de ces discussions de groupe, et puis par toute l'histoire qu'elle va avoir avec Antoine, quoi.
Alors, Marina Foïs, je l'avais rencontrée au moment du Festival de Cannes, et voilà ce qu'elle me disait de son rôle et de ce qui l'avait poussée à vous dire oui, Laurent Canté.
Déjà, ce qui m'a plu quand j'ai lu le scénario, au-delà du fait que de toute façon j'aurais dit oui à Canté, quoi qu'il me propose, je crois, mais ce qui m'a plu, c'est qu'il n'est jamais question d'elle, en fait. Il est question de ce qu'elle reçoit et de comment elle est intéressante, en réaction et en écoute. C'est comme ça que le personnage est écrit. Il n'y a pas de scène qui la raconte, elle, dans son intimité, son passé, ses projets, son futur, son machin. C'est pas la question. Elle est intéressante aussi dans ses limites qu'elle atteint, en fait, assez vite face au personnage d'Antoine qui la déstabilise complètement. Elle arrive avec toute sa bonne volonté, plein de sentiments bons et aussi plein de bons sentiments, et elle croit qu'elle va pouvoir résoudre très vite des problèmes en livrant ce discours si bien construit. C'est rare.
Ce qu'elle raconte, en fait, Marina Foïs, c'est la collision de deux mondes.
Oui, avec, je pense aussi, quelque chose qui m'intéresse. J'ai l'impression qu'elle incarne aussi l'impuissance qu'on peut éprouver en tant qu'adulte, en tant qu'intellectuel, en tant qu'artiste, en tant que face à un monde dont on se voit bien que de toute façon il n'est plus tout à fait régi par des règles que nous on est capable d'analyser ou de dominer. Une absence de regard historique peut-être sur les choses et des outils. Les jeunes manipulent des outils qu'on manipule beaucoup moins bien qu'eux, enfin, en tous les cas, moi.
C'est pour ça qu'il y a ces séquences de jeux vidéo.
Et alors, il y a les jeux vidéo qui, à mon avis, vraiment façonnent aussi un univers, un imaginaire. Il y a aussi Internet, il y a la façon dont on communique beaucoup plus directement qu'on pouvait le faire peut-être il y a quelques dizaines d'années. Et que tout ça, il faut qu'on le prenne en compte et qu'on arrête aussi de regarder un petit peu avec surplomb des pratiques qui sont en train de modifier complètement notre monde parce qu'on y communique plus pareil, parce qu'on ne le regarde plus pareil et que c'est aussi une des questions que le film essaye de traiter.
Mais ce film, est-ce que c'est un peu une réponse de Laurent Canté à la faillite absolue, hein, je crois qu'on peut le dire, de la gauche à répondre au Front National? Je pense à une lettre ouverte à Emmanuel Macron que vous avez publiée peu de temps après le Festival de Cannes.
Ah bon? J'étais pas au courant, moi.
Alors, ça, je peux vous donner le titre, Mathieu Lucci. Ça s'appelle « Monsieur Macron, est-ce pour en arriver là ?» que j'ai voté pour vous.
Oui, bah effectivement, enfin, c'est parti d'un cas très précis d'une voisine chinoise qui a été mise en centre de rétention en laissant sa famille, sa petite fille de 8 ans, son mari chez elle et qui a failli repartir dans un avion. On a réussi à mobiliser en particulier le réseau Éducation sans frontières. Et c'est vrai que moi j'ai eu envie à ce moment-là de m'exprimer un peu plus publiquement parce que j'ai la chance de pouvoir le faire et que donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, c'est quelque chose qui me semble important. Après, moi je suis pas sûr que ce soit juste une faillite de la gauche. Je pense que c'est une faillite d'une société qui ne se remet pas en question. Une société qui considère que les jeunes sont des incultes, des idiots, qu'ils passent leur temps sur les jeux vidéo et que ça ne sert à rien. Enfin, et que tant qu'on aura justement toujours cette position de surplomb, on aura tendance à les éloigner d'abord de nous, et puis à les inciter à aller vers des choses qui seront beaucoup plus
mortifères.
Par opposition à ce que nous on propose, quoi.
Mathieu Lucci, quand vous avez préparé le rôle, bon, on a bien compris qu'il y avait pas mal des ateliers de préparation. Et est-ce que Laurent, vous avez demandé, vous avez préconisé, vous avez conseillé de voir certains films en particulier ou pas du tout?
Alors non, pas du tout. En fait, le Antoine, je l'ai approprié, je n'ai pas appris, je me suis inspiré de rien, Laurent ne m'a rien conseillé de lire ou de regarder, et je suis arrivé au tout premier casting qui était une improvisation avec déjà l'état d'esprit un petit peu d'Antoine, d'être un peu contre tout, reclus, c'est quelque chose que je sais bien faire, j'ai des facilités là-dedans, et du coup j'avais cet état d'esprit, et en revenant, Laurent me demandait de garder cet état d'esprit en affinant petit à petit les caractères du personnage, sur pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça, pas comme ça, vers quoi est-ce qu'il voulait que je parte dans les réflexions un peu racistes, un peu pour piquer, pour voir jusqu'à où je pouvais aller, pour voir comment je pouvais réagir, comment les autres pouvaient réagir face à ce genre de trucs. Et petit à petit, en fait, après j'ai découvert le scénario, on a parlé du scénario, on a parlé du personnage, j'ai rencontré les autres jeunes qui m'ont aussi aidé à me mettre dans la peau de ce personnage parce que ils m'excluaient aussi dans les scènes, ils arrivaient très bien à faire ces regards un peu méchants de lui il est bizarre alors on lui parle pas. Donc ça s'est fait vraiment tout seul.
Au point que Mathieu éprouvait le besoin de s'excuser auprès d'eux quand il avait été trop convaincant dans une scène. Quoi.
C'est vrai que du coup, vous étiez un peu à part pour déjeuner. Non, quand même, non, pas jusque-là.
Il a fallu que la première semaine, je me justifie beaucoup.
C'est vrai.
Non, je rigole. Non, ils sont très ouverts, ils comprenaient que... Mais c'est juste moi... En fait, ils jouaient tellement bien, ils me regardaient tellement mal que je ressentais le besoin d'aller leur dire « mais c'est pas moi ». Ils me disaient « ah non, mais je sais, il n'y a aucun problème, je sais que c'est pas toi que tu joues ». Mais c'est puis c'est assez compliqué de dire de telles choses en regardant quelqu'un droit dans les yeux avec un petit sourire un peu
insolent.
Ouais, c'est assez...
Mais en fait, ça vous a bouleversé ce tournage, Mathieu Lucci?
Ah moi, bah, ça m'a totalement changé. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui ont réfléchi à ma place sur ma condition et ma place dans la société. Ça m'a permis moi-même de réfléchir. Ça m'a fait rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer dans ma vie parce qu'ils sont célèbres et qu'on vient pas du même milieu, comme par exemple Marina, ou même des techniciens qui sont des gens qui ont beaucoup voyagé généralement, qui ont des choses à nous apprendre. Ça m'a beaucoup ouvert et ça m'a aussi ouvert au cinéma. Des goûts de cinéma que j'avais pas avant, des goûts...
Il vous a conseillé de voir des films, Laurent Cantet ?
Non. Il voulait que je reste un jeune inculte ciotadin.
Ciotadin ?
Non. Non, mais j'écoutais beaucoup les conversations qu'il avait avec Marina à table, tout ça, où ça tournait forcément très souvent autour du cinéma, et où je me suis rendu compte que j'avais des lacunes culturelles, et surtout... cinématographiquement, j'avais des lacunes énormes et du coup, j'ai commencé à regarder des films pour les combler et en fait, je me suis pris au jeu et maintenant, j'arrive plus à m'arrêter de regarder des films.
Et ça y est, on voit vos yeux briller, on voit que vous êtes mordu. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup de propositions après la première mondiale de l'atelier à Cannes?
Non, pas encore. Est-ce que vous trouvez ça pas normal? Si vous trouvez ça pas normal, vous pouvez dire.
Mais du coup, est-ce qu'on vous verra bientôt au cinéma? C'était ça la question.
Ah, bah pour l'instant, c'est pas prévu, mais j'espère, oui.
T'as quand même fait des courts-métrages entre temps.
Ah oui.
Faut pas.
Non, oui, je fais
négliger
tout.
Négliger les courts-métrages, parce que je pense que c'est une école essentielle.
Très importante. Ah, ouais. Robin Campillo et Laurent Canté peuvent vous le dire. Mm-hmm.
C'est à la dure. Ça a changé d'ambiance.
C'était un c'est moins luxueux.
Un peu plus rigoureux que... Mais c'était génial, c'était une autre façon de faire du cinéma.
Faut pas laisser croire que notre tournage était très luxueux quand même.
Bon, on avait chacun trois loges, ouais. Avec différentes habits, des habits qui nous étaient donnés tous les jours.
Et vous, Laurent Canté, est-ce que vous êtes déjà sur votre prochain scénario?
Non, là vraiment j'ai toujours besoin qu'une histoire soit vraiment terminée avant d'avoir l'envie et l'esprit suffisamment ouvert pour penser à la suite. Donc là, je suis en train de vivre quelques mois de promotion avec ce film, en France d'abord, puis à l'étranger, puisqu'il s'est vendu dans pas mal de pays et que je vais le suivre beaucoup. Donc je pense qu'à d'ici Noël, je n'aurai pas vraiment le temps de beaucoup penser à la suite.
Écoutez, alors avant de penser à la suite, on conseille vivement à tous les auditeurs d'aller voir mercredi prochain l'atelier Tous les cinémas du monde, générique de fin, au micro Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.